Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, la draft 2023 est terminée. Du coup, on commence nos débriefs division par division. Et aujourd'hui, donc, c'est l'AFC Est. Et on va commencer par une franchise sans doute la meilleure. Depuis 2-3 ans, c'est la meilleure. Ce sont les Bills de Buffalo. Ils ont fait une superbe draft. Et pour en parler, je suis accompagné de Nitini Asumwang. Salut Niti, ça va?
Salut Jean-Michel, comment ça va?
Ben, ça va bien, impeccable. Donc, les Bills de Buffalo qui nous ont fait une superbe draft. Il n'y avait que 6 choix, voilà, pas énormément de choix. Je vous fais vite fait un petit récapitulatif. Au premier tour, le Titan Dalton Kincaid. Au second tour, le guard offensif Osiris Torrance. Au troisième tour, le linebacker Dorian Williams. Au cinquième tour, le receveur Justin Shorter, qui porte mal son nom puisqu'il est très grand. Et au septième tour, encore un guard offensif, c'est Nick Brokers. Donc déjà, Niti, première question que je vais te poser. Dans ces 6 joueurs, est-ce que tu as vraiment un favori?
Bah, le favori, c'est celui qui a été sélectionné, enfin mon favori, mon choix préféré en tout cas de cette draft de Buffalo Bills, c'est Osiris Torrance, le garde de Florida. On l'attendait au premier tour, il est descendu jusqu'en fin de deuxième et les Bills de Buffalo avaient un besoin sur la ligne offensive. Et puis le voir sélectionné dans une franchise qui joue, qui va jouer principalement le Super Bowl l'an prochain. Bah, quoi de mieux, ouais, il a fait une très belle saison à Florida et là au Buffalo Bills sous Sean McDermott il va se fondre comme un poisson dans l'eau, on va dire, pardon, dans cet effectif des Buffalo.
Oui, c'est ça exactement, je te rejoins là aussi. Franchement, si les Bills avaient pris Osiris Torrance en fin de premier tour, on aurait dit « Ah ben, bien joué, c'est un super joueur, et puis ça correspond aussi à un besoin. » Et il récupère en fin de deuxième tour, le choix 59, donc effectivement, c'est très bien joué. Et puis voilà, d'autres super choix également, comme par exemple Dorian Williams, le linebacker de Tulane, c'est une machine à plaquer, il a beaucoup de vitesse. Son duo avec Matt Milano sur le second rideau, ça risque d'être vraiment explosif. Et donc voilà, franchement, une très belle draft des Bills.
Un très bon emplacement à Tremaine Edmonds, hein, Dorian Williams. Comme tu as dit, machine à plaquer, un joueur expérimenté. Là, c'est pareil, je pense qu'il sera titulaire dès la première semaine, si tout se passe bien, dans les camps d'entraînement de Buffalo.
Et ce Dalton Kincaid, qu'est-ce qu'on en pense au poste de tight end?
Bah, tu vois, Dalton Kincaid, c'est peut-être le choix dont j'aime le moins, malheureusement, parce qu'en fait, ils ont dû monter de 2 places, hein, il me semble, lors de la draft pour pouvoir le sélectionner. Même si c'est un bon joueur, je ne pense pas que c'était le besoin principal. Tu vois, Tyen, il y a déjà Dawson Knox. Là, on a encore un Tyen qui est peut-être meilleur en réception que Dawson Knox, hein, je pense. Mais ce n'était pas le besoin premier et surtout au premier tour. Voilà, c'est peut-être le premier jour qui me chagrine un peu du côté des Bills, car après les joueurs qui sont draftés juste après, ça correspond aux besoins à ce moment-là.
Donc ce serait plutôt ça que tu n'aimes pas. Parce que je peux te poser une question, c'est est-ce qu'il y a un joueur que tu n'aimes pas ou alors une stratégie que tu n'aimes pas? C'est plus, voilà, par rapport au choix du premier tour.
C'est ça, c'est plus la stratégie que je n'aime pas plutôt que le joueur en lui-même. Le joueur, je l'aime beaucoup. On en a parlé même ensemble lors d'une émission sur les tie-ins, il y a déjà, même l'année dernière d'ailleurs. Et la preuve, maintenant, il est sélectionné au premier tour. C'est même le premier tie-in qui est sélectionné. Mais je n'avais pas compris la stratégie de monter à ce moment-là. Mais sinon, les joueurs autour, les autres joueurs qui ont été draftés sont très bons, hein. Il n'y a pas de problème pour moi du côté de la draft des Bills.
Oui, effectivement. Bah, si tu me permets de mettre juste un petit bémol, c'est que oui, c'est clair, c'était pas le besoin prioritaire et je pense que ce choix a un petit peu surpris les fans des Bills. Mais quand tu as un quarterback comme Josh Allen, lui donner une cible au poste de Titan comme Dalton Kincaid, oh là là, oh là là, oh là là, on peut pas dire que ce soit un mauvais choix parce que franchement, ça va faire des ravages. On le sait, Dalton Kincaid, on en a beaucoup parlé pendant ce processus draft. C'est quelqu'un qui est très bon dans ses tracés, qui a suffisamment de vitesse, voilà, qui va vraiment beaucoup apporter, que ce soit en red zone, mais également bien avant, dans toutes les zones intermédiaires, il va permettre de gagner des yards, de faire avancer les chaînes, et donc ça, voilà, ça va être un parfait complément pour Stephon Diggs ou Gabe Davis, les receveurs. Et donc voilà, moi je trouve que c'est un choix très solide et en gros une très très belle draft des Bills de Buffalo. Et justement, on va y venir avec notre note. Alors, les notes, voilà, c'est sous forme d'appréciation. Je vais t'en proposer 6. Félicitations, compliments, encouragements pour les 3 positives, et puis 3 négatives, passables, mauvais et blâme. Toi, Niti, pour les Bills, tu te situerais où?
Bah, rien qu'avec ce que j'ai dit sur la stratégie des Bills, les joueurs, il n'y a pas de question à se poser sur la valeur ajoutée puisqu'ils vont tous en apporter une. J'avais hésité entre compliments et encouragements, je t'avoue. J'ai mis d'abord encouragement, mais c'est vrai que les joueurs en eux-mêmes, pardon, sont très bons, hein. Par exemple, Nick Broker qui va renforcer la ligne offensive et même Alex Austin qui va renforcer la secondary des Bills, j'aime bien. Peut-être que je reverrai peut-être un peu mon jugement et je mettrai plus compliments, mais avant j'avais mis encouragement. Mais ça me dérange pas de mettre compliments.
D'accord, ben moi, tu sais quoi, moi j'y vais directement sur compliment. Parce que je trouve que Kincaid, oui, même si ce n'était pas un besoin, tu renforces une force et quelque part, ben, ça améliore ton équipe. Osiris Torrance au deuxième tour, Dorian Williams au troisième tour, oh là là. Et puis ensuite de la profondeur au poste de receveur, au poste de guard. Et puis même, comme tu l'as dit, ce petit Alex Austin qui était très productif l'année dernière avec Oregon State. Moi, c'est au minimum compliment pour les Bills de Buffalo. On va passer à leurs rivaux de division, des rivaux qui n'avaient que 4 choix de draft, ce sont les Dolphins de Miami. Donc les Dolphins de Miami qui ont d'abord sélectionné au second tour le cornerback Cam Smith de South Carolina. Ils ont ensuite sélectionné le supersonique running back Devon Achane de Texas A&M. Puis ils ont pris un receveur très grand. D'ailleurs, on se demande est-ce qu'il va jouer receveur, est-ce qu'il va jouer Titan, Elijah Higgins de Stanford. Et enfin, leur dernier choix, ils ont pris un tackle offensif, c'est Ryan Hayes de Michigan. Donc, Nitti, même question que pour les Bills. Dans ces 4 choix, est-ce qu'il y a tiens, un petit préféré, un chouchou?
Ouais, bah mon préféré, c'est tout simplement le premier, Cam Smith, hein, de South Carolina, puisque l'intérim, ou les saisons de Noah Igbinogbene, ça y est, je vais bien le lire son nom, ne se sont pas très bien passées, même s'il a fait une ou deux interceptions par-ci par-là, mais il a concédé bon coup de réception. Et là, tu as un trio de cornerbacks qui va être titulaire lors de la saison 2023 avec Xavier Howard, Jalen Ramsey et Cam Smith. Donc ça promet beaucoup sur la couverture aérienne du côté de Miami. Ce choix-là, j'ai beaucoup aimé, surtout qu'il était plutôt projeté fin de premier tour, récupéré au deuxième tour. C'est très bien. Là, Miami avait très bien commencé la draft à ce moment-là.
Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, le manager Greer a annoncé qu'en fait, Cam Smith, le cornerback, c'était pas du tout une cible pour lui. Mais quand il a vu encore disponible, il s'est dit non, c'est pas possible, je peux pas laisser passer ce joueur-là. Donc, du coup, il l'a pris. Et effectivement, ça vient renforcer un backfield offensif qui était déjà pas mal du tout, comme tu l'as dit, avec Xavier Howard et Jalen Ramsey. Et du coup, voilà, maintenant avec Cam Smith, il n'y a pas de souci. Il a de bons instincts. Et puis voilà, en couverture de zone, il va être très très bien. Tu vas le balader un petit peu. Que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Je veux dire, avec quelqu'un comme Javon Holland qui est plus à l'intérieur, tu mets un Cat Smith juste à côté, tu laisses les deux autres vraiment à l'extérieur. Et vas-y, 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 pour battre cette secondary-là, ben, il va falloir se lever tôt. Donc du coup, ouais, c'est un très bon choix. Moi, si tu permets, mon choix préféré, c'est Devon Achane, le running back de Texas A&M. Devon Achane, c'était pas du tout mon running back préféré parce que je le trouve quelque part un petit peu unidimensionnel. Mais cette dimension... pour les Dolphins, mais ça fit parfaitement parce que cette dimension, c'est la vitesse. La vitesse, c'est un running back très très rapide. C'était d'ailleurs un coureur de 100 mètres au lycée. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vitesse et c'est pas juste qu'il faisait ça avec des chaussures à pointe sur la piste. Non, il a montré sur le terrain de football également. Il a beaucoup de vitesse et ça fit. Ça fit avec les Dolphins. Le coureur Raheem Mostert, également, beaucoup de vitesse. Jeff Wilson, c'est de la vitesse. Et ben voilà, tu prends encore un running back avec beaucoup de vitesse et tu vas aller très très vite. Et je parle même pas des receveurs, les Jaylen Waddle, les Tyreek Hill, etc. C'est une équipe supersonique. En fait, c'est les supersoniques de Miami. Hein, si on fait une petite référence au basketball, à l'ancien temps, etc. Mais voilà, c'est les nouveaux Sonics. C'est pas possible. Ils vont aller, mais trop trop vite. Donc oui, c'est une draft... très très solide. Ensuite, bon, il est Jay Higgins, receveur, Titan. C'est vrai qu'ils avaient besoin d'un Titan, ils n'ont pas pris de Titan. Moi, si j'avais une petite limite à mettre à leur draft, ben, c'est celle-là. C'est, je me demande où est le Titan. Parce que, oui, d'accord, ils en ont encore, ils ont re-signé Durant Smitey, etc. Je veux bien. Et ce Ilie Higgins, il pourra peut-être faire l'affaire, sans doute au poste de Titan, parce que c'était plutôt un receveur entre les deux, voilà, entre les deux positions. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé un vrai bon Titan, et il y en avait beaucoup dans cette cuvée de draft. Mais bon, on verra. Qu'est-ce que tu en penses?
C'était très compliqué pour Miami. Ils en avaient seulement, comme tu l'as dit, 4 choix de draft. Et donc, c'est très difficile de l'évaluer. Ilie Higgins, bon, je t'avoue, je ne suis pas son plus grand fan. Hein. Il est assez grand, certes, mais l'arbre de tracé et encore même les mains, c'est on va dire, il faut qu'il travaille. Mais après, Ryan Hayes, j'ai bien aimé l'addition du tackle pour donner de la profondeur, mais c'était très compliqué hein, pour Miami avec seulement 4 choix à trouver des joueurs pour ne serait-ce que pour, par exemple pour donner de la profondeur dans l'effectif. Donc je pense qu'ils vont probablement se contenter de faire signer peut-être des joueurs soit en free agent non drafté, soit d'autres joueurs qui n'ont pas encore trouvé de club. Je pense notamment peut-être à un pass rusher comme Leonard Floyd ou Frank Clark qui peut signer pour un contrat minimum.
Oui, c'est ça, exactement. Avec 4 choix de draft, tu peux pas faire des miracles non plus. Bon, on va leur donner une appréciation tout de même. Donc félicitations, compliments, encouragement, passable, mauvais ou blâme. Ton avis, Nitti?
Ouais, je serais plutôt parti sur encouragement. Voilà, 4 choix, c'est très dur d'évaluer hein, cette draft de Miami. Hein, je sais pas pour toi. Voilà, encouragement, mais je peux pas aller au-delà. Hein. C'est pas, c'est 4 joueurs, c'est peu. On verra bien effectivement après, comme tu le sais, le jugement de la draft, ça se fait pas en une saison, ça se fait pas même en 2 saisons, ça se fait plutôt dans 3 à 4 saisons. Mais là, alors on se parle. La draft de Miami est plutôt assez bonne, on va dire. Encouragement, c'est très bien.
Oui, je te rejoins sur les encouragements. Oui, effectivement, avec assez peu de choix. Moi, j'aime beaucoup les joueurs qu'ils ont pris. Même Ryan Hayes, comme tu as dit, un tackle très athlétique, pris aussi bas dans la draft, c'est très très bien. Mais avec seulement 4 choix, c'est difficile de faire plus qu'encouragement. Mais bon, ils ont déjà une équipe solide. Ça devrait faire une bonne saison. On va passer à une équipe qui, au contraire, a utilisé 3,5 milliards de choix de draft. Ce sont les New England Patriots qui ont donc commencé avec le cornerback Christian Gonzalez, qui a un peu glissé, on s'est demandé pourquoi. Eh bien, ils l'ont récupéré, impeccable. Ensuite, ils y sont allés sur le pass rusher Keion White, le linebacker Martin Mapu, un centre Jack Andrews, un kicker Chad Reeland, un guard offensif, Sidi Iso, d'Eastern Michigan, dont on avait parlé dans nos pastilles. Antonio Maffi, encore un guard offensif de UCLA. Puis le controversé mais très talentueux receveur, Keshawn Booty, de LSU. Ils ont ensuite pris un punter. Eh oui, ce sont des gens, eux aussi. Bryce Baringer, de Michigan State. D'ailleurs, lors de la pastille sur les Patriots, on avait mis Bryce Baringer aux Patriots. Eh ouais, on a eu au moins un choix de bon dans ces drafts.
Bravo.
Le receveur de Mario Douglas, qui nous vient de Liberty. Amir Speed, un cornerback de Michigan State. Et enfin, un safety de Jackson State, il s'appelle Isaiah Bolden. Alors donc, ça nous fait 5 et 10 et 12 choix de draft. Est-ce que parmi ces 12 choix de draft, t'as un petit chouchou, Niti?
Bah, mon chouchou, c'est tout simplement le premier. Christian Gonzalez, t'en as parlé, je ne vais pas en reparler. Disponible en 17 alors qu'il était attendu plutôt top 15 voire top 10. L'aubaine, et en plus les Patriots ont même baissé pour aller le chercher. C'est tout simplement magnifique. Un cornerback que j'adore, un potentiel cornerback numéro 1. Je pense que la saison 2023, on verra tous au potentiel, j'espère. En tout cas, très bon choix dès le premier tour pour les Patriots.
Oui, choix excellent. Moi, je vais vous dire un petit mot sur Martin Mapu. Voilà, un linebacker de Sacramento State, second niveau universitaire. Bon, on l'a bien vu, hein, les Patriots, ils n'ont pas peur d'aller au second niveau, ne serait-ce que l'année dernière avec Cole Strange, et ça a plutôt bien marché. Voilà, Martin Mapu, franchement, lors de la saison, je ne l'avais pas trop suivi. Mais lors du Senior Bowl, je l'ai vu, et bien vu, et bien vu. Voilà, un joueur très athlétique, très rapide. Alors, à l'université, il est utilisé entre les positions, vous savez, de safety, de linebacker, un petit peu dans cette zone-là. Le joueur très athlétique, il fait beaucoup de choses. Et je pense qu'avec un maître défensif comme Bill Belichick, ça peut donner quelque chose de très, très intéressant. Ce Martin Mapu, et évidemment que la scène va être très grande pour lui. Passer du second niveau universitaire à la NFL, il va lui falloir un petit peu d'ajustement. Donc à mon avis, en équipe spéciale, il va déjà montrer son talent, apporter un petit peu de rotation, un petit peu de temps de jeu. Mais qui sait, d'ici un an, d'ici deux ans, voilà, il peut devenir un joueur majeur. Comme je l'ai dit, les Patriots, ils ont déjà pris Cole Strange du second niveau. Il y a déjà un Kyle Duggar, par exemple, qui s'est vraiment imposé, qui lui aussi venait d'une toute petite université. Donc ils savent faire les Patriots, donc Martin Mapu, pour moi, ça pourrait donner quelque chose de bon.
Non, c'est un très bon joueur, hein. C'est un très bon joueur, Martin Mapu. Après, voilà, il va jouer probablement linebacker pour moi en NFL. Safety, il y a déjà du monde côté Patriots, donc je pense qu'il va jouer plutôt linebacker dans le milieu, et ça va être une machine à plaquer. Je pense à une machine à plaquer pour en NFL.
Ça va être à suivre, une des attractions de la saison 2023. Parmi ces 12 joueurs, Niti, est-ce qu'il y a un choix que tu n'aimes pas? Ou alors est-ce qu'il y a un manque que tu aurais aimé être adressé et que tu ne vois pas?
Ils ont adressé quasiment tous les besoins. Moi, en fait, ce que je pourrais leur reprocher, c'est d'avoir pris peut-être trop de linemen offensifs. Après, il n'y a jamais trop de linemen offensifs en NFL. Jake Andrews, Sidi Sow et Antonio Mafi, donc Antonio Mafi, sont arrivés. Peut-être un peu trop de choix sur la ligne, et j'aurais aimé qu'ils prennent un autre pass rusher. Alors ils ont pris Keyon White, hein, qui va plutôt être sur la première ligne défensive pour moi, mais j'aurais aimé qu'ils prennent un edge rusher, un pur edge rusher. Parce que peut-être que Martin Mapu peut être ce joueur, mais je ne le vois pas vraiment comme un edge rusher. Donc j'aurais préféré qu'il prenne un pass rusher. Après, on sait aussi que les receveurs côté New England, c'est très compliqué, même s'ils ont signé Juju Smith-Schuster. Là, ils ont pris Kayshon Boutte. Alors si les Patriots arrivent à le développer et d'en faire un receveur numéro 1, alors là, c'est un steal. C'est un steal parce que je le voyais très haut avant la saison 2022. Entre sous-utilisation, comme l'avait écrit Victor, et aussi problème de comportement, je pense que s'il arrive dans une équipe des Patriots qui n'arrive pas à avoir une place de titulaire, je pense qu'on n'y peut rien pour lui.
Oui, mais c'est ça exactement, parce qu'ils avaient besoin d'un receveur tout de même, et puis Kayshon Boutte, voilà, c'est un receveur très talentueux. Voilà, sur son talent, il n'y a rien à dire, il est très talentueux, c'est plus au niveau de la tête, du cerveau, que ça déraille un petit peu encore cette année. Voilà, il a commencé à bouder parce qu'il n'était pas assez utilisé, il a commencé à effacer toutes les mentions de LSU sur ses comptes, sur ses réseaux sociaux, puis
ouais,
ensuite il est revenu, et puis il y a eu une histoire, voilà, de fait, qui est un petit peu dégénérée, avec des choses un petit peu sexuelles, et puis de l'alcool, et ceci, et cela, et en fait, il était peut-être même parti de ce qu'on entendait pour refaire une saison LSU, mais
c'est ça.
Mais on lui a fait comprendre, non, non, tu sais quoi, on veut plus de toi par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà, voilà le type de joueur très talentueux sur le terrain, mais il va falloir bien le canaliser. Donc si ça se passe bien, ça va être vraiment un style de cette draft, une super affaire. Après, à voir si ça se passe bien. Mais je pense que dans l'environnement d'un Bill Belichick, qui lui rigole pas trop à mon avis avec ça, ça pourrait bien se passer.
Ah bah non, justement. C'est pour ça que je te disais que s'il n'y arrive pas avec Bill Belichick, il va jamais y arriver dans un autre environnement NFL, c'est certain.
Voilà, alors moi, si tu permets une petite limite par rapport à leur draft, c'est que, comme tu l'as mentionné, ils ont pris trois joueurs sur la ligne offensive, mais trois joueurs intérieurs. Ils ont pris deux guards, ils ont pris un centre. Et c'est vrai que quelque part, je m'attendais à un tackle. Un tackle, parce qu'ils ont signé Riley Reiff, là, pour l'intersaison, mais il est en fin de carrière, et puis c'est un contrat d'un an, il me semble. Trent Brown, qui est encore très bon, très productif, le tackle gauche, mais lui, il me semble qu'il arrivera en fin de contrat, après la saison 2023. Donc, où est l'avenir au poste de tackle? Et plutôt que de prendre trois joueurs intérieurs, j'aurais peut-être au moins souhaité un tackle offensif. Voilà, c'est ma petite limite par rapport à leur draft des Patriots.
C'est ça.
Donc on va leur donner une appréciation, félicitations, compliments, encouragements, passable, mauvais, blâme.
Non, non, pas de blâme. Non, non, elle est positive, hein, cette draft de New England. Comme tu l'as mentionné, le poste de tackle est absent. J'aurais aimé qu'ils prennent aussi un bon skill player, on va dire, un bon playmaker en attaque. Peut-être qu'ils l'ont avec Keishon Booty, qui sait, voilà. Moi, je partirais plus sur encouragement. J'avais hésité avec compliment, mais je pense que j'irais plus vers encouragement.
Oui, ben c'est ça. Je te rejoins, moi aussi, encouragement. Ne serait-ce que les trois premiers choix qui sont très solides, avoir ajouté voilà, des spécialistes, ça sert aussi pour repousser les attaques adverses ou pour marquer des points, ça sert aussi. Et puis voilà, de la profondeur sur la ligne offensive, c'est pas mal. Donc quand même, c'est des encouragements, même s'il y a peut-être un petit peu de quelques manques et donc on ne peut pas monter plus haut. Donc, dernière équipe de cette division AFC Est, ce sont les Jets de New York. Et donc, les Jets de New York, au premier tour, ils y sont allés avec le edge rusher Will McDonald. Ils ont ensuite pris un centre pour Aaron Rodgers, c'est Joe Tippmann de Wisconsin. Ensuite, Carter Warren, le tackle offensif de Pittsburgh. Ils sont restés à Pittsburgh pour prendre le running back Israel Abanikanda. Ensuite, le linebacker Zaire Barnes de Western Michigan. Le defensive back, Jared Bernard Converse de LSU. Et enfin, le tight end, Zach Kuntz de Old Dominion. Donc, parmi toutes ces sélections, est-ce que tu en as une qui vraiment tu trouves qu'elle est très maligne?
Bah, le premier joueur qui me vient en tête dans cette draft et qui convient parfaitement aux besoins des Jets, c'est le centre. Le centre Joe Tippmann de Wisconsin. Je l'ai dit lors du direct sur Touchdown Actu, lors du direct sur le deuxième tour. C'est un besoin de poste de centre. Il sera titulaire dès la première semaine, je n'ai aucun doute là-dessus. Il a un bon QI football et de bonnes capacités athlétiques. Et il est meilleur en plus pour la protection de passe que pour créer des brèches sur le jeu de course. Donc en plus, il vient de Wisconsin, une université qui forme très bien les hommes des lignes offensives. Donc c'est un très bon choix. Et malheureusement, Jean-Michel, si je peux me le permettre, c'est peut-être leur seul bon choix.
D'accord, ben on verra un petit peu plus tard, d'accord. Là, pour Joe Tippmann, moi, je trouve que non seulement c'était un besoin, mais en plus, c'est un fit parfait pour les Jets qui jouent souvent en zone. Vous savez, les schémas de zone, c'est-à-dire les joueurs qui s'associent pour partir dans une direction, pour ouvrir des brèches. Et il est très mobile, très athlétique, donc il est juste parfait. En gros, il y avait deux centres qui ressortaient un petit peu du lot dans cette draft. C'est John Michael Smith et Joe Tippmann. Moi, comme ça, en préférence générale, j'allais plutôt sur le joueur de Minnesota, Schmitz. Mais si je me penche sur les Jets, franchement, je trouve que Tippmann fit encore mieux de par sa mobilité, de par ses qualités athlétiques. Et également, pour une autre petite chose également, c'est que Joe Tippmann, il est très grand. Ouais, il est très grand, très imposant. Donc du coup, tu vas avoir le camp d'entraînement. Évidemment, il va y avoir une compétition au camp d'entraînement. Et si tu as besoin, Joe Tippmann, je pense qu'il a le gabarit aussi pour jouer en guard. Tu peux aussi le déplacer au poste de guard. Alors que John Michael Smith, Je dis pas que c'est impossible, c'est toujours possible, bien sûr, mais Joe Tillman, a priori, il a davantage des attributs pour jouer guard. Alors, je pense qu'il jouera centre avec les Jets, c'est pas la question, mais il t'offre également cette possibilité-là, que ce soit lors du camp d'entraînement en voyant les meilleurs joueurs pour aligner ton meilleur 5, que ce soit au cours de la saison, si tu as des blessures, par exemple, au poste de guard et que tu as quelqu'un qui peut faire le boulot au poste de centre, eh ben, tu pourras peut-être glisser Tillman au poste de guard. Moi, je trouve que c'est vraiment un super choix, je te rejoins également, même si personnellement, mon petit chouchou dans cette draft, moi, c'est Will McDonald, parce que c'est un pass rusher voilà, qui est extraordinaire de souplesse, de rapidité, et je pense qu'il va vraiment beaucoup, beaucoup apporter dans le système de Robert Saleh. Donc, Nitti, oui, pardon.
Non, vas-y, mais tu vois, justement, Will McDonald est un très bon joueur, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est qu'il a été pris assez tôt lors de la draft, 15e choix. Je suis sûr, et sur le direct on l'a vu, les Jets ont essayé de trouver quelqu'un pour qu'ils puissent prendre leur place pour sélectionner un autre joueur. Ils n'ont pas trouvé une bonne offre adéquate. Je trouve que c'était un peu trop tôt pour sélectionner un edge rusher. Et puis edge rusher n'était pas forcément un besoin, même si le joueur est très bon. Ils avaient déjà sélectionné Jermaine Johnson au premier tour l'an dernier. Alors il a peut-être pas convaincu, certes, mais voilà, je pense qu'il faut que le premier tour, il faut surtout un joueur qui puisse contribuer dès la première année. Je ne sais pas si ça va être son cas. Voilà, c'est mon petit bémol sur cette sélection, même si c'est un bon joueur.
Oui, moi j'étais persuadé que Will McDonald partirait au premier tour. Voilà, je le mettais dans les pastilles au premier tour. Je trouve que c'est un super joueur. Après, je te comprends, mais il faut quand même rappeler une chose. C'est que je pense que la cible des Jets, c'était un tackle offensif. Évidemment, d'ailleurs, il a adressé un petit peu plus tard avec Carter Warren au quatrième tour, qui est plutôt une très belle affaire au quatrième tour. Voilà, c'est un joueur avec un petit peu des manques, mais qui a de la taille, une grande envergure, une grosse expérience. Mais au quatrième tour, c'est plutôt bien. Mais il faut pas oublier une chose. C'est qu'en fait, quand ils arrivent au choix 15, les Jets, ben, il n'y avait plus de tackle offensif vraiment de premier plan, puisque les 4 étaient partis. Paris Johnson n'était plus là, Darnell White n'était plus là, Peter Skoronski n'était plus là, et les Steelers ont monté un échange pour leur passer juste devant au choix 14, et ils ont pris Broderick Jones. Donc du coup, ils se sont retrouvés sans les 4 tackles offensifs majeurs de cette draft. Et ils se sont dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va pas faire un reach pour aller chercher le cinquième tackle disponible. Et ils y sont allés sur une autre position.
Ah non, mais je suis bien d'accord avec toi, hein, là-dessus. Hein. C'est clair qu'il fallait pas prendre un autre tackle offensif. Ben alors là, à ce moment-là, s'il serait resté, vu les joueurs que tu as dit dans la section des Jets, pourquoi ne pas avoir pris une cible donc pour Aaron Rodgers à ce moment-là? C'est juste ça que je me posais comme question. Mais Will McDonald, hein, je le maintiens que c'est un bon joueur, mais c'est un peu trop tôt.
Oui, et puis c'est vrai que par exemple, quelqu'un comme Jackson Smith et Njigba était encore disponible. Et ça aurait pu faire quelque chose de fantastique avec Garrett Wilson, avec Allen Lazard, etc. Ça aurait pu être effectivement très très fort.
Ah bah là, je pense que là, Aaron Rodgers, il serait ravi. Hein. En plus, un duo d'Ohio State, une cible qu'il aime bien, Allen Lazard. Et puis peut-être Corey Davis, Denzel Mims. Alors là, tu as une comité de cibles qui est plutôt pas mal.
Donc, on va arriver à notre appréciation pour cette draft des Jets. Donc, félicitations, compliments, encouragements, passables, mauvais ou blâme. Qu'est-ce que tu en penses, Nitti?
Franchement, j'ai regardé aussi les joueurs qu'il y avait. Alors, Carter Warren, tu disais effectivement qu'il était bon, mais malheureusement, Carter Warren, il a été blessé tout au long de la saison 2022. Après, à part Joe Tippmann, la ligne offensive, franchement, besoin de tackle offensif, c'était vraiment important. Je pense qu'ils auraient dû l'adresser peut-être un peu plus tôt. Après, ils n'avaient pas tellement de choix dans les premiers tours, donc c'est un peu dommage. Je suis vraiment mitigé hein, pour la draft des Jets. Moi, j'ai mis mauvais, personnellement.
Ah ouais.
Mais on peut monter à passable. On peut monter à passable. Franchement, même les joueurs, tu vois, je sais pas s'ils vont bien s'illustrer dans le système des Jets. Parce que l'an dernier, ils avaient fait une très bonne draft avec les joueurs qu'il fallait. Là, tu vois, par rapport à ce qu'ils avaient fait l'an dernier, par rapport à la saison qu'ils avaient fait l'an dernier. L'objectif de la free agency et de l'intersaison, c'était d'attirer Aaron Rodgers. Ils l'ont fait. Là, à la draft, tu avais l'impression que certains choix n'étaient pas franchement préparés. Tu parlais d'Israël Abanikanda un peu. Il y a déjà Briciol et Michael Carter. Donc, même si c'est un bon joueur, je comprends pas trop cette sélection non plus. Et le seul receveur qui est arrivé au Jets, c'est Zach Kuntz. Un tight end, alors qu'il y a déjà Tyler Conklin et CJ Uzoma. On peut monter à passable, mais je pense que voilà, j'ai mis mauvais. Personnellement, j'ai mis mauvais, mais on peut monter à passable.
Voilà, comme tu veux, reste sur mauvais si tu veux. Hein. Moi, bah, écoute, je vais encore passer pour le gentil. Écoute, je fais pas exprès. Hein. C'est vraiment ce que je pense. Moi, franchement, j'y vais sur encouragement. Pourquoi? Bah, déjà parce que Will McDonald, j'aime beaucoup. Parce que Joe Tippmann, il fit parfaitement dans le système. Carter Warren, c'est pas que je dis qu'il est bon, c'est que je dis qu'il est bon pour un quatrième tour. Donc, du coup, voilà,
Ah oui,
c'est une
je suis
assurance
d'accord.
s'il y a des blessures. Alors, oui, il a été blessé lui aussi en 2022, mais il va revenir en bonne santé. Je pense que le coureur à Abanikanda, ça fait pas de mal parce que ben, cette position se blesse souvent. D'ailleurs, on l'a vu, malheureusement, Breece Hall s'est blessé, donc ça fera pas de mal d'avoir ce joueur-là. Puis Michael Carter, oui, il avait fait une très bonne saison rookie, un petit peu moins bien l'année dernière. Et puis, c'est vrai qu'avec des choix tard dans la draft, sixième tour et septième tour, ben, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec Barnes, Bernard Convert et Kuntz, parce qu'en fait, ce sont trois joueurs qui ont tout cassé lors des tests athlétiques, et ça, c'est très important. Alors, pour le Titan Zach Kuntz, je pense que ça va être important sur le terrain en attaque, même s'il y a déjà du Conklin, du Uzoma qui sont des joueurs un petit peu plus fiables. Ben, t'as un joueur qui est très grand, qui est très athlétique, qui va apporter quelque chose, et les deux autres, le linebacker et le defensive back, je pense qu'on va surtout les voir en équipe spéciale. Et c'est bien d'améliorer l'équipe spéciale. Et quand on parle d'équipe spéciale, c'est pas simplement les spécialistes, kicker, punter, c'est pas simplement ceux qui retournent les coups de pied, c'est aussi les plaqueurs, ceux qui vont plaquer les retours adverses, ceux qui vont couvrir tes propres retours. Et ça, Zaire Banks et Bernard Convert, ce sont des joueurs, mais voilà, des qualités athlétiques incroyables. Donc ils vont apporter un petit peu de rotation à leurs positions respectives, mais surtout améliorer l'équipe spéciale. Donc du coup, ben oui, l'année dernière, c'était félicitations, mais tu peux pas faire tous les ans des draft avec Sauce Gardner, Garrett Wilson, Breece Hall, etc. Voilà.
Ah non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais non, je sais. En fait, à part les deux premiers, les cinq autres, oh, et Zach Kuntz, donc les quatre autres joueurs, je ne sais pas s'ils vont apporter une valeur ajoutée, peut-être
D'accord.
juste en
Oh,
équipe
il n'y a pas de
spéciale. C'est
souci,
tout.
c'est ça les avis de toute façon. Puis dans les commentaires, vous nous donnerez vos avis à vous, les amis. Donc voilà, on a fait un conseil de classe pour cette division qui va être super intéressante en 2023. L'AFCS, ça va être incroyable avec les Bills de Buffalo, de Josh Allen, cette armada, que ce soit en attaque ou en défense, avec les Supersonics de Miami, voilà, qui vont très vite, qui vont encore nous régaler, mais ça va être grave. Avec donc ces Jets qui récupèrent tout de même. Attention, tonton Aaron Rodgers, c'est pas n'importe qui. Hein, ça risque d'être vraiment quelque chose à suivre. Ça va être superbe. Et puis les Patriots. Hein, les Patriots, même s'ils sont un petit peu dans le creux de la vague depuis 2-3 ans, ça reste quand même les Patriots. Il y a non seulement des joueurs de qualité, mais surtout un entraîneur de qualité, un savoir-faire. Donc il faut toujours compter sur eux. Donc ça va vraiment être une division très, très, très intéressante. Eh ben merci Nietzsche pour tes avis.
Merci à toi Jean-Michel et à très vite.
Et on se retrouve ben, dès demain pour un autre débrief d'une autre division. Allez, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.